Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Recourir à la médecine pourrait-il compliquer nos symptômes ? Question saugrenue, me direz-vous, c'est pourtant la thèse que soutient l'auteur Nortin Adler dans son livre « Malade d'inquiétude » avec un point d'interrogation, paru au PUL, Presse universitaire de Laval, au Québec, en 2011. Traduit par le Québécois et professeur de médecine Fernand Turcotte, il est préfacé par Joël Menkès, qui est notre invité dans cette nouvelle émission Au fil des pages. Monsieur, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission.
Eh bien, c'est un plaisir. Nos auditeurs vous connaissent, Joël Menkès, puisqu'ils vous ont entendu sur le sujet de la fibromyalgie, sur le site de Canal Academy, mais également sur le mal de dos et sur l'ostéopathie. Vous êtes ancien chef de service en rhumatologie à l'hôpital Cochin, professeur émérite à l'Université Paris 5 René Descartes, et vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine. Alors le moins qu'on puisse dire avec cet ouvrage intitulé « Malade d'inquiétude » et donc rédigé par Nortin Adler, c'est qu'il met un coup de pied dans la fourmilière. Il remet en cause la chirurgie cardiaque, et on va en reparler au cours de cette émission. Il remet en cause le dépistage du cancer colorectal, du cancer du sein. Il parle de la surmédicalisation dont les médecins et l'industrie pharmaceutique seraient à l'origine, selon lui. Il critique même l'existence de la fibromyalgie, qui, je le rappelle pour nos auditeurs, serait donc une maladie conséquence d'une hypersensibilité à la douleur, sujet auquel vous apportez, vous, beaucoup de crédit, Joël Menkès. Alors pourquoi avoir accepté de préfacer ce livre qui, ma foi, je pense, doit laisser des traces, doit être assez houleux dans le milieu médical et scientifique ?
Alors, d'abord, il faut bien se rendre compte que ce livre est destiné aux médecins américains et au public américain. Aux États-Unis, les étudiants en médecine sont obligés de faire des emprunts importants en banque pour pouvoir financer leurs études. Et lorsqu'ils s'installent, ils ont des remboursements à assurer. Ce qui donne un petit côté commercial, entre guillemets, à la pratique médicale. Donc, le professeur Adler s'élève un peu contre ce côté commercial. Et par ailleurs, il a fait une profession de foi qui est de douter de tout ce qui est avancé comme une vérité première, intouchable. Mon premier contact avec Adler, c'est lorsqu'il était venu à Cochin. On était en train de regarder des radiographies de malades qui avaient des problèmes de colonne vertébrale et on essayait de préciser à quel endroit il fallait faire des injections de dérivés cortisoniques, les infiltrations, quel traitement local. Et il est arrivé, il nous a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Bien, on va mettre au point un traitement local de leur pathologie douloureuse. » Mais pour moi, me dit-il, les lombalgies, les douleurs du dos, sont des douleurs qui sont liées aux difficultés de la vie. Difficultés sociales, difficultés professionnelles, difficultés économiques.
Donc pas d'utilité d'utiliser les infiltrations.
Ce que tu fais là n'a aucun intérêt et aucune utilité. Ça m'avait un peu perturbé tout de même. Je ne l'ai pas complètement cru, bien sûr. Et nous avons continué à traiter ce qui nous semblait nécessaire de traiter. Mais à mesure que les années ont passé, je me suis aperçu, surtout lorsque j'ai eu à donner des avis sur des personnes qui se plaignaient de ne pas pouvoir travailler car j'avais des douleurs du dos que rien ne calmait, avec assez peu d'anomalies à l'examen ou même avec des signes d'arthrose radiologique. En regardant un peu plus loin, on s'apercevait que l'importance des plaintes était souvent liée à des difficultés, pas tellement sociales ou économiques, puisque la plupart de ces gens, dans ce contexte qui était le mien, étaient fonctionnaires, mais à des difficultés professionnelles, et en particulier des harcèlements par un supérieur désagréable, ou une mésentente avec les collègues, qui prenaient une telle ampleur que le seul moyen d'échapper, c'était de dire que j'avais mal au dos et que je ne pouvais plus travailler.
Et d'en avoir plein le dos.
En avoir plein le dos, voilà.
Mais c'est un aspect psychosomatique qui maintenant est pris en compte, mais qui ne veut pas non plus cacher de véritables souffrances et douleurs.
Alors Adler, lui, est sceptique sur tout. Tout ce qu'il n'a pas vérifié. Par exemple, lorsque paraît un article même dans une revue de grande réputation, comme New England, Lancet, il refait tous les calculs statistiques pour vérifier si, oui ou non, il y a une présentation qui met en valeur des petites anomalies qui n'ont pas de véritable signification. Il appelle ça « torturer les données scientifiques ». Et c'est vrai que de temps en temps, on a vu apparaître des études qui démontraient des choses qui paraissaient un peu difficiles à croire. Par exemple, au Canada, il y a eu un travail qui a montré que les injections que l'on faisait dans les articulations postérieures des vertèbres, pour des gens qui avaient mal au dos précisément, ne servaient à rien. Et la conclusion de ce travail, c'était qu'il ne fallait plus rembourser les malades. Et à l'époque, j'ai eu l'occasion d'en parler à M. De Sèze, qui était le grand rhumatologue français qui s'était le plus occupé de pathologie vertébrale. Je lui ai dit, monsieur, qu'en pensez-vous? Est-ce que vraiment il faut abandonner ce type de traitement? On n'y jamais de la vie. Il y a des personnes à qui ça peut réussir et d'autres, bien sûr, pour lesquelles c'est inefficace. On a vu aussi, dans le cadre de l'ostéoporose, des personnes qui ont très mal lorsqu'elles ont une fracture vertébrale liée à l'ostéoporose. En général, la douleur disparaît au bout d'une semaine. Mais chez certaines personnes, cette douleur persiste, elle est horrible, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas se lever du lit. Et certains ont proposé d'injecter dans la vertèbre un ciment pour consolider la vertèbre fracturée et immédiatement la personne est soulagée. On a dit oui, c'est effectivement, il y a eu quelques cas intéressants, mais il faut faire une étude statistique contrôlée et comparer cela avec l'absence d'injection de ciment. Une étude est faite, portant sur plusieurs centaines de cas, et la conclusion du travail est que statistiquement, il n'y a pas de différence qu'on injecte ou pas le patient. Ça, c'est une première étude. Là aussi, ça m'a paru tout à fait exagéré, parce que on a l'expérience de patients qui sont véritablement transformés. Deuxième étude, prenant en considération un peu mieux les particularités de leurs patients, montrant qu'en réalité, certaines personnes pouvaient bénéficier du traitement. Donc, sa particularité, c'est d'être toujours sceptique dans un premier temps et de n'accepter qu'avec retard ce que l'on dit de façon véhémente ou les enthousiasmes.
Alors justement, vous parlez d'un travail autour du scepticisme. Donc, comme j'ai pu le dire en préambule, Norton Adler n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein, il met un coup de pied dans la fourmilière, notamment un chapitre consacré aux troubles cardiaques. Il évoque la chirurgie cardiaque et les pontages coronariens comme quelque chose qui ne sert à rien. Et même, il écrit, texto, qu'on aurait dû abandonner le pontage coronarien depuis 20 ans, puisque entre un traitement pour retirer, en tout cas faire partir ces petites plaques, et puis un pontage coronarien, avec un traitement, on obtient les mêmes résultats. Mais en disant ça, malheureusement, il jette aussi le discrédit sur les chirurgiens cardiaques qui font, j'imagine, leur travail correctement, non?
Oui, mais il attire l'attention. Effectivement, je crois qu'il ne faut pas généraliser et, avec un tel livre, perdre confiance dans ces médecins et dans leurs prescriptions. C'est vrai que c'est un petit peu décourageant et que si on prend à la lettre tout ce qu'ils nous suggèrent, on finit par se dire qu'il ne faut faire aucun traitement, ce qui n'est sûrement pas la réalité, ni ce qui est souhaitable. Alors, le problème de la chirurgie cardiaque. Actuellement, beaucoup de personnes, qui ont dépassé la quarantaine ou la cinquantaine, dès qu'elles ont un problème de douleur thoracique, subissent une coronarographie, sans qu'il y ait véritablement de raison de le faire, de crainte, c'est le principe de précaution, de passer à côté d'une lésion coronarienne. Donc là, ça permet quand même de réfléchir un petit peu et de ne pas faire à tout sujet qui a un peu mal dans la poitrine une coronarographie. J'ai vu aussi un collègue brésilien qui avait eu des douleurs précordiales, à qui on a fait un pontage, et à la suite du pontage, on lui a dit deux choses. Vous avez une circulation collatérale, c'est-à-dire des petits vaisseaux de suppléance qui se sont très bien développés, mais on pense qu'il est plus prudent que vous arrêtiez vos activités. J'ai trouvé un homme totalement déprimé, n'osant plus lever la main, tellement il avait peur de faire une crise cardiaque, n'osant plus travailler, n'osant plus rien faire, ayant abandonné tout ce qu'il y avait, alors que réellement il n'y avait pas de raison. Donc il y a eu quand même quelques excès, et en comparant la chirurgie et la cardiologie interventionnelle, celle dans laquelle on met des petits stents, des petits ressorts à l'intérieur des coronaires, on s'aperçoit que les indications de la chirurgie sont relativement restreintes. Donc il y a eu une époque où il y a eu un emballement pour la chirurgie, et puis maintenant on revient un peu sur cette indication chirurgicale au profit du traitement médical ou de la chirurgie interventionnelle cardiologique.
Alors, pour quand même donner une idée à nos auditeurs de ce que l'on peut trouver dans le livre de Martin Adler, Malade d'inquiétude, il écrit ceci. Alors, je suis désolée, j'en remets une couche, mais c'est pour donner donc un petit peu la teneur des propos à nos auditeurs. Il écrit « Je soumets que la cardiologie effractive, donc invasive, et la chirurgie cardiovasculaire ont écrit l'un des plus tristes chapitres de l'histoire de la médecine occidentale. Si l'on mettait immédiatement fin au pontage, à l'angioplastie et aux endoprothèses, les gens souffrant de maladies cardiaques iraient mieux. » Donc, en lisant ces quelques lignes, on a quand même l'impression que c'est le médecin qui va rendre malade le patient.
Oui, là, il y a un petit emballement de la pensée de Martin Adler. C'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, un emballement pour les interventions d'un type de pontage, et que c'était pour soulager le patient, soit pour prévenir des anomalies futures. Donc, chaque fois qu'une intervention devient très, très populaire et très à la mode, il y a quelquefois des indications un peu limites qui se font. Donc là, il n'a pas tout à fait raison. Il ne faut pas non plus considérer que la médecine aboutit qu'à faire des malades, à créer des malades, ou à rendre les gens anxieux et à transformer des sujets qui n'ont rien en malades. Un de nos collègues, précisément américain, qui a 85 ans, a eu des douleurs précordiales. On lui a fait immédiatement un pontage, bien sûr, ce qui lui a permis de reprendre une activité correcte, de jouer au tennis régulièrement, 85 ans. Un ou deux ans plus tard, il a fait un lymphome. Cette prolifération des leucocytes a été traité par chimiothérapie, puis un anticorps qui a détruit, stabilisé la prolifération des lymphocytes, B, rémission de sa maladie. Et puis dernièrement, il a 86 ans, 87 ans, toujours très actif, droit comme un nid, il signale un essoufflement. Et il ne supporte pas d'être essoufflé. Quand il marche, il est essoufflé, il est limité dans sa activité. On lui trouve une anomalie d'une valve cardiaque. Et à ce moment-là, on lui a fait quelque chose qui est encore quasi expérimental, une intervention par l'artère fémorale. C'est-à-dire qu'on intervient pour mettre un stent. Et ils ont monté la valve, la nouvelle valve, et corrigé le défaut valvulaire cardiaque sans ouvrir le thorax. 48 heures après, il était debout dans sa chambre. Une semaine après, il était rentré chez lui. Et actuellement, il m'a dit qu'il allait très bien.
Alors, à travers cet exemple, c'est intéressant puisqu'il y a aussi un chapitre consacré à l'acharnement thérapeutique ou pas, en tout cas à partir d'un certain âge. Et il pose la question suivante, alors je vous la retourne, hein. Doit-on s'appliquer à prolonger toute vie ou bien seulement celle qu'on estime d'une qualité qui en vaille la peine? La question est un peu abrupte.
C'est un peu abrupte. Mais dans la préface, je cite une personne qui, en l'occurrence, était une de mes tantes, qui, à 90 ans, avait une maladie polyarticulaire extrêmement douloureuse, qu'on appelle une chondrocalcinose, que rien ne soulageait, ou alors des doses de médicaments très très importantes, de calmants, et qui ne demandait qu'une chose, c'est de terminer sa vie. Dans la maison de repos où elle était, un beau jour, elle fait un poulant permanent, un bloc de conduction auriculo-ventriculaire, et ils prennent rendez-vous pour lui mettre un entraîneur, un pacemaker, un entraîneur cardiaque pour lutter contre cette dissociation auriculo-ventriculaire. On me téléphone pour me prévenir, je pousse des cris en disant qu'il n'était pas question d'embêter cette vieille dame, mais qu'il fallait la laisser mourir tranquillement. Son fils médecin arrive, on lui dit « Monsieur, vous n'allez tout de même pas laisser votre maman mourir comme ça. » Le chirurgien l'attend. Donc on a refusé l'intervention, on dit qu'elle devait rester dans son lit et mourir tranquillement, ce qui s'est passé comme on le désirait. Mais on a été regardé vraiment de travers, considérant qu'on était de véritables assassins. Donc ce qui manque un peu, c'est le bon sens. Autant il est normal de faire les choses pour quelqu'un qui le souhaite. Il faut d'abord que l'individu lui-même le souhaite. À 90 ans, si vraiment vous vous sentez intellectuellement parfait, et c'est le cas du médecin dont je vous parlais qui a eu cette intervention par voie artérielle sans ouvrir le thorax, Il souhaitait continuer à vivre aussi normalement que possible, et il était demandeur. Mais d'un autre côté, faire des traitements extrêmement onéreux, par exemple, à des gens qui sont en fin de vie, pour prolonger leur existence de quelques jours ou de quelques semaines, me semble tout à fait aberrant. Et là, je partage l'avis de M. Nortine.
Mais c'est toujours très délicat parce qu'en fait, chaque cas est particulier.
Chaque cas est particulier, absolument. D'ailleurs, maintenant, on ne peut pas lire un article ou entendre quelqu'un parler de médecine sans dire que tout est affaire de prescription à la carte. C'est le grand mot, à la carte.
Dans le livre de Nortine Adler, il y a aussi tout un pan consacré au dépistage des cancers. Cancer colorectal, en France, on en parle beaucoup puisqu'il y a une campagne initiée par le ministère de la Santé pour le dépistage du cancer colorectal à partir de 50 ans. Également, une partie de l'ouvrage consacré au dépistage du cancer du sein. Alors là aussi, il n'y va pas, de main morte, donc Nortine Adler. Il évoque des troubles que peuvent occasionner les dépistages. Alors, quels seraient les troubles qu'un dépistage colorectal ou cancer du sein pourrait provoquer, Monsieur Menkès?
Pour le cancer colorectal, si j'ai bien compris, il s'adresse surtout au sujet de moins de 50 ans, sujet relativement jeune, en disant que le dépistage est sûrement intéressant chez ces jeunes, si on arrive à mettre en évidence une lésion cancéreuse qui est enlevée à un stade précoce, mais il dit aussi qu'il peut y avoir des faux positifs, c'est-à-dire la recherche de sang dans les selles est positive, ce qui induit une endoscopie, une colonoscopie, et que la colonoscopie amène à faire des biopsies plus ou moins faciles, d'où un risque de perforation, donc un risque iatrogène propre, et que ça peut entraîner des complications.
Et que ces saignements, initialement, peuvent être dus à des polypes, mais pas forcément à une tumeur maligne.
Tout à fait. Chez les personnes plus âgées, alors là, il dit qu'après 75 ans, ce n'est pas tellement utile de faire ce type de dépistage, parce qu'il considère que les gens peuvent vivre jusqu'en moyenne 85 ans actuellement, et qu'ils ont toutes les chances de mourir d'autre chose que du polype malin ou de la petite lésion maligne que l'on va trouver. C'est pour ça qu'il est un petit peu réticent. Il attire l'attention sur les complications induites par cette prévention, peut-être parfois un peu excessive.
Ce dépistage généralisé, en fait.
Dépistage généralisé.
Mais alors, pour le cancer du sein, il écrit « Pour bien des femmes, il vaudrait mieux que leur cancer du sein ne soit jamais détecté. » Là aussi, on peut être surpris. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la pensée de Nortine Adler ?
Le dépistage du cancer du sein donc amène à faire des mammographies à répétition. Ces mammographies montrent des lésions qui sont difficiles à interpréter. Par exemple, des microcalcifications. Entre des microcalcifications bénignes et des microcalcifications témoignant d'un cancer du sein, la différence est souvent difficile à faire. Alors, on peut s'aider d'une échographie qui ajoute quelque chose à la mammographie. Mais il y a des cas où on n'arrive pas à faire la différence.
D'où le cas encore là des faux positifs.
Donc, on a une image, on ne sait pas ce que c'est. Alors, que fait-on ? On intervient chirurgicalement et on fait une résection aussi précise que possible de ces calcifications qui sont examinées et on regarde si elles sont malignes ou pas. Alors, bien souvent, elles ne sont pas malignes, donc il y a eu intervention chirurgicale, cicatrice, éventuellement, petite complication, comme je l'ai vu après l'intervention pour ces microcalcifications, hémorragie locale, douleur, ponction douloureuse d'un épanchement sanguin au niveau de la plaie. Et d'un autre côté, vous avez quelquefois des lésions à la mammographie qui sont apparemment bénignes et qui en réalité vont évoluer très lentement et qui sont des cancers qu'on n'arrive pas à voir. Alors, dans ces cas-là, l'imagerie en résonance magnétique peut apporter un plus. Mais ça devient très compliqué. Alors, il faut faire mammographie, résonance magnétique, échographie. C'est tout à fait infernal. Donc, c'est vrai que, dans un certain nombre de cas, la mammographie soit dépiste des lésions qui ne sont pas cancéreuses et vous amène à faire de la chirurgie dans une ambiance d'anxiété majeure, parce que, avant le résultat de l'examen de la pièce anatomique, on se demande si c'est un cancer ou pas. Donc on est très inquiet. Et puis ça ne l'est pas. donc rassuré. Puis à nouveau une mammographie, à nouveau une image discutable, à nouveau une chirurgie.
Donc c'est la raison pour laquelle il dit qu'il vaut mieux parfois ne pas savoir si on a un cancer du sein ou pas.
Oui, ça c'est un peu provocateur,
oui.
Je crois. Il vaut mieux savoir si on a un cancer du sein ou pas. Mais ces dépistages systématiques peuvent amener à faire des interventions à répétition.
Pour sur des sujets sains.
Une personne que je connais bien, il y a eu 2 interventions pour prélèvement de calcification qui ne montraient rien. Puis ensuite, apparition d'une toute petite boule dans le sein, qui avait été très dure, qui était un peu bizarre. Mammographie, rien. Mammographie, un milieu très spécialisé, rien. Échographie, rien. Et surveillance pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, il y avait un placard un peu étendu. Toujours aucun aspect particulier à la mammographie. Et là, les médecins qui s'en occupent décident de faire une résonance magnétique qui montre qu'il s'agit d'une lésion très vascularisée. Donc le développement du réseau artériel, des capillaires, était en faveur d'une pathologie maligne. À ce moment-là, intervention chirurgicale qui enlève la lésion. Et il s'agissait d'un cancer un peu particulier, étendu sur 5 cm. Le dossier est montré à différents cancérologues. Un des grands spécialistes du sein dit, bien écoutez, cette personne, à mon avis, est condamnée. Dans les 6 mois, c'est fini, un cancer de 5 cm, ça ne pardonne pas. D'autres disent, non, il n'y a pas d'adénopathie, ça devrait être plus bénin, et le pronostic moins mauvais. Et en réalité, ça a été une forme très spéciale, à évolution lente, indécelable pendant 5 ans, et qui a été stabilisée après. Il a fallu enlever le sein complètement. Pas de chimiothérapie qui a été récusée. Un peu de radiothérapie localement pour éviter la récidive locale. Des anti-estrogènes, parce que c'était une tumeur qui était sensible aux hormones, hormonosensible. Et à 5 ans, pas de récidive. Au bout de 5 ans. Alors qu'elle devait mourir au bout de 6 mois. Et on sait maintenant qu'il y a eu des traitements par excès. On a vu apparaître dans la presse spécialisée cette notion de traitement par excès du cancer du sein, métastasé ou pas métastasé. Il y a une époque où, comme l'avait indiqué l'un des spécialistes, on bombardait la femme de chimiothérapie ultra-agressive. Donc on faisait un maximum dans les gens extrêmement malades, dans l'idée qu'on allait arrêter l'évolution. Et cette évolution, dans bon nombre de cas, ne se ferait pas. Donc on essaye maintenant d'approcher le problème en s'aidant des gènes, des caractères génétiques de la personne, de la présentation de la lésion, et en essayant de corréler l'aspect anatomique au génome du patient.
Alors, on l'aura bien compris, finalement, les propos de Nortine Adler se basent aussi sur un traitement, en l'occurrence des cancers, notamment cancer du sein, sur des techniques qui étaient valables il y a encore quelques années. Maintenant, on est plus centré sur une chimiothérapie vraiment très ciblée. On arrive vraiment au terme de notre émission. Alors juste pour terminer, il y a une partie consacrée au syndrome de ne pas se sentir dans notre assiette et à médicaliser ce syndrome de ne pas se sentir dans notre assiette. C'est en tout cas le terme qu'il emploie. Et à un moment donné, il fait donc référence à la fibromyalgie. Comme je vous ai en face de moi, il est impossible de ne pas évoquer cette partie-là, puisqu'il écrit, donc Nortine Adler écrit, « Les promoteurs du concept de la fibromyalgie sont convaincus que leur intuition physiopathologique et leurs théories sont valides, même quand elles ne sont pas prouvées. Il se pourrait bien qu'ils finissent par avoir raison, mais pour le moment, leur méthode ne fait que du tort. » Alors, c'est pas très sympathique pour vous qui avez quand même préfacé l'ouvrage de Nortine Adler.
Absolument, moi je dis exactement le contraire. Mais dans l'idée de cet homme qui doute de tout, une pathologie qui ne repose pas sur des signes palpables, et sur des examens biologiques spécifiques, est contestable. Et il pense, lui, que c'est la société, par les difficultés qu'elle amène dans la vie de tous les jours, qui amène ces personnes à se présenter comme douloureux de partout, et que ça ne correspond à aucune réalité. C'est une opinion. Il est certain que maintenant, avec les techniques actuelles d'IRM fonctionnelles, On peut voir comment s'activent les zones cérébrales intéressées par les zones douloureuses du corps. Les derniers travaux qui ont été faits sont en faveur de la réalité d'une anomalie de la perception douloureuse. Donc, pour moi, c'est une position philosophique qui considère, lui, que si vous dites à quelqu'un qu'il a une fibromyalgie, vous l'aggravez. Moi, je pense strictement le contraire. Les gens sont anxieux de ne pas savoir ce qu'ils ont. Le fait de parler à quelqu'un, de lui expliquer et de lui donner confiance, ça change absolument tout. C'est énorme. La médecine, c'est pas uniquement des médicaments très dangereux ou très actifs et des interventions plus ou moins acrobatiques. C'est aussi le contact. Il est extraordinaire que vous avez quelqu'un qui souffre. Vous lui faites une injection locale, une infiltration, qui ne va agir qu'au bout de 48 heures. Et que la personne sort de votre bureau en vous disant « je n'ai plus mal ». C'est vraisemblable, extraordinaire. Simplement le fait que vous l'ayez tranquillisé. Quand une patiente vient de Chambéry pour consulter à Cochin pour un mal de dos, et que la consultation c'est uniquement pour lui expliquer les choses, la tranquilliser, je me suis dit, c'est vraisemblable lui faire dépenser une journée de travail, un déplacement pareil, pour uniquement lui dire la bonne parole. Et elle m'a écrit en disant, écoutez, vous ne pouvez pas savoir comme ça m'a amélioré. Je vous remercie tout ce que vous m'avez dit. Donc, tout ça est très important. Puis il ne faut pas oublier que là, il décrit l'Amérique qui est, ou la médecine, pour ceux qui peuvent se l'offrir complètement, est très avancée. Mais moi, j'ai connu, et je le dis aussi dans cette préface, j'ai connu l'époque où les gens venaient des pays au-delà du rideau de fer. Ceux qui étaient bien vus, dans le cadre du Parti communiste, ou qui étaient envoyés par le comité de l'usine. Et ils arrivaient avec des diagnostics souvent un peu farfelus, des examens biologiques très complets, et le médecin référent de là-bas me disait « ne t'inquiète pas, on a tout fait. On a tout fait, tu n'as pas besoin de recommencer. » Recommençait, bien entendu, tout était faux. Des examens plus sophistiqués les uns que les autres. Les fonctions extraordinaires de chaque lymphocyte, des récepteurs, tout était faux. Les diagnostics étaient faux, bien entendu. Et les gens étaient affolés parce qu'il n'y avait pas de médicaments, pas d'industrie pharmaceutique, rien. Et tout ce qu'ils souhaitaient, c'est venir du côté occidental pour bénéficier d'une médecine dont on peut dire du mal, mais qui finalement est bien utile.
Eh bien, je vous remercie, Joël Menkès. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez préfacé, « Malade, au pluriel, d'inquiétude, avec un point d'interrogation, malade d'inquiétude ». Donc, rédigé par Nortine Adler, traduction de Fernand Turcotte et préface de vous, Joël Menkès, un livre publié au Pulle, presse universitaire de Laval, au Canada. Et publié en 2011. Merci à vous d'être venu nous apporter cet éclairage et peut-être une tempérance vis-à-vis des propos de Nortine Adler. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine émission. Merci.
Merci pour votre invitation.